Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 8h.
Vous voyez les films sur les naufrages ? C'était pareil en pire. Non mais c'est un truc de Barjot.
Un truc de Barjot et un scénario catastrophe. Mais le film s'est bien terminé cette nuit au large de l'Afrique. Entre deux vagues de 5 mètres, Kevin Escoffier, skipper naufragé, a été sauvé par son concurrent Jean Le Cam après 11 heures sur un radeau de survie. Le directeur de course du Vendée Globe est en direct sur Europe 1 dans une seconde. Un vaccin à moins 70 degrés, d'accord, mais comment le transporter ? L'enquête d'Europe 1 sur le défi logistique d'une chaîne du froid qu'il faut tenir pour acheminer des millions de doses. Et puis Gérald Darmanin évoque un manque de formation des policiers et admettent une erreur. Mais comment sont formés ceux qui se retrouvent ensuite au cœur des manifs et des black blocs? Les informations du service police-justice.
Un accord sur le télétravail, un débat sur l'assurance chômage et la promesse toujours d'une réforme des retraites. Après ce journal, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, les tensions dans le pays, les débats sur la loi de sécurité globale et la police. Laurent Berger répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Lorsqu'une course en solitaire, sans assistance, se transforme en une aventure humaine à peine croyable. Le Vendée Globe nous a fait vivre en l'espace d'une soirée les émotions les plus fortes. Le message de détresse de Kevin Escoffier, Jean Le Cam qui s'approche, l'aperçoit puis le perd de vue en pleine nuit et le soulagement pour de bon cette fois quand les deux hommes apparaissent sains et saufs sur un écran de contrôle.
Le directeur de course du Vendée Globe est en direct ce matin sur Europe 1. Bonjour Jacques Carès.
Bonjour.
Tout cela s'est passé entre hier après-midi et le beau milieu de cette nuit. Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs cet enchaînement fou des événements ?
Oui, c'était une nuit assez particulière. Effectivement, on a eu un appel de détresse effectivement à 15h10, heure française, hier après-midi. Ça nous a permis de mettre tout de suite en situation Jean Le Cam qui était le plus près pour se dérouter vers Kevin Escoffier. On n'avait pas beaucoup de renseignements. On savait simplement que le bateau avait subi un choc très très important, il s'était cassé en deux et que donc du coup le skipper demandait assistance immédiate. Donc les situations météo étaient très critiques puisqu'il y avait de la mer de 4 à 5 mètres avec un vent fort de 35 nœuds moyens. Donc c'est des situations rigoureuses pour ne pas dire difficiles, une mer très formée voire très mal rangée. Donc on a eu donc une première position par la balise qui nous a permis de donner à Jean Le Cam une situation sur laquelle il a pu s'y rendre relativement difficilement. Il a aperçu le bateau, mais l'a perdu rapidement de vue, puisqu'il était obligé de manœuvrer et de réduire de la toile. Et à la tombée de la nuit, on a perdu carrément le repérage du radeau de survie
là,
de Kevin.
Vous le perdez de vue à ce moment-là, pendant plusieurs heures, on est de nuit, et vous envoyez non pas un seul, mais quatre skippers pour chercher Kevin Escoffier.
Absolument, donc la situation était critique. Donc d'autres bateaux avancer sur cette zone, on s'est permis forcément de les dérouter. On a dérouté trois autres bateaux et on a mis un triangle de repérage, un triangle de quadrillage en place en donnant des informations à ces quatre bateaux pour sillonner et tâcher de retrouver un peu comme une aiguille dans une meule de foin. Une autre situation de balise nous a été apportée. On avait pas mal d'incohérences sur certaines balises, enfin sur certaines situations. Mais aussi par l'assistance de Météo France sur un simulateur de dérive, on a pu accorder effectivement une situation positive pour revenir sur le radeau de survie.
Et au dernier moment, il a fallu sauter à l'eau.
En fait, Kevin est sauté à l'eau, effectivement, puisque le bateau s'est cassé brutalement en deux. Donc, j'ai eu l'occasion de l'avoir une fois embarqué sur le bateau de Jean pour nous expliquer. Le bateau s'est cassé en deux, littéralement. Il a été obligé de revêtir sa combinaison de survie en quelques secondes et sauter à l'eau avec son radeau de survie qui l'a percuté dans l'eau. Il n'a même pas eu le temps de prendre beaucoup d'affaires. C'était quelque chose de très particulier, de très intense. Heureusement qu'il y a un bon sens maritime dans tout ça.
Jacques Carès, on a senti cette émotion immense de Kevin Escoffier. Vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure dans le journal de 7h. Un moment très fort, je voudrais qu'on le réécoute. Un extrait.
Ah, on a bien bossé avec Jean. On a bien bossé tous les deux. Comme je disais à Jean, putain, je lui dis en arrivant, je suis désolé, tu fais une course de Barjot, je suis désolé de te niquer ton truc.
Ah non, mais c'est vous voyez les films sur les naufrages ? C'était pareil en pire. En 4 secondes, le bateau il a planté, l'étrave elle s'est repliée à 90, j'ai mis la tête dans le cockpit, il y a une vague, j'ai eu le temps d'envoyer un texto, la vague après elle a tout fait chinter l'électronique et tout. Non mais c'est un truc de Barjot, plier un bateau en deux quoi. J'en ai fait, mais celle-ci...
Jacques Carrez, vous êtes toujours avec nous, directeur de course du Vendée Globe. On est d'accord que pour Kevin Escoffier, c'est fini. Il a perdu la course, forcément. Jean Le Cam, c'est fini aussi pour lui. Comment ça se passe ?
Non, pas du tout. La course reprend ses droits. Alors, c'est vrai qu'il y a deux hommes sur le même bateau. Pour une course en solitaire, c'est à peu près
c'est spécial.
Impossible. Donc, on va mettre tout en place, effectivement, dans les jours qui vont suivre pour pouvoir récupérer Kevin Escoffier. Il est impossible que Jean revienne sur le cap avec des vents contraires, donc oui. Sur Bonne Espérance. Donc, il va s'enfoncer dans l'océan Indien et aux alentours des îles Australes, Crozet et Kerguelen. On va tâcher, probablement avec le bateau de la Marine nationale qui fait la surveillance des pêches, on va peut-être essayer de faire un rapatriement de Kevin Escoffier. En tout cas, c'est l'idée que j'ai en ce moment.
Jacques Carrez, directeur de course du Vendée Globe, merci d'avoir répondu ce matin en direct à nos questions dans le journal de 8h d'Europe 1.
Et le récit de ce sauvetage incroyable est à retrouver, bien sûr, sur europe1.fr.
Ce sont les plus vulnérables et ceux qui s'en occupent qui seront les premiers vaccinés contre le Covid-19.
Oui, 750 000 pensionnaires des EHPAD et 100 000 soignants présentant des facteurs de risque seront prioritaires. Voilà la recommandation de la Haute Autorité de Santé. C'est peu dire que dans ces établissements, comme on va le voir ici à Strasbourg dans le quartier de la Méno, le vaccin est attendu comme une libération. Arthur Mbaché.
Il est prêt, serein, presque impatient de vacciner Philippe Claude, médecin coordonnateur à l'EHPAD du Bartigegout à Strasbourg.
Ah bon, on va se répartir par étage, une première aile, une deuxième aile. Dès qu'on a les vaccins, on a notre liste des résidents. Comme la grippe, on va d'une chambre à l'autre et on les vaccine les uns après les autres avec une traçabilité du numéro de l'eau. Le seul problème, c'est effectivement la conservation, si ce sont les vaccins à moins 80 degrés. Là, j'imagine qu'on ne les livrera pas comme ça et puis débrouillez-vous.
Si ça tient 48 heures qu'il faut conserver au frigo, ça tient.
Didier Fuchs, le directeur de la maison de retraite.
On peut très bien définir que, par exemple, le mardi matin à 9h, c'est livré. Dans la journée, on vaccine tous ceux qui sont prévus dans cette journée-là et on refait 2-3 jours après un autre cycle et il tourne comme ça sur les établissements.
Si ça peut se faire, ça sera vraiment une espérance, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, je crois. On verra le bout du tunnel.
Moi, je voudrais de nouveau pouvoir sortir, donc je suis pour le vaccin.
Maïté, 71 ans, est un peu lassée par l'atelier déco Couronne de l'Amant.
Ça fait de nouveau presque 2 mois qu'on est confiné parce que moi, j'ai encore une voiture. Et ça me manque de pouvoir m'oxygéner un peu.
Il y a ici 129 résidents. La direction pense raisonnablement en faire vacciner 90 à 95%. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe.
Après les EHPAD, ce seront plus largement les plus de 75 ans, ainsi que les soignants, puis les plus de 50 ans, puis le tour de tous ceux dont le métier favorise le risque d'infection, et enfin tous les Français majeurs.
Voilà pour le calendrier. Mais d'ici là, comment mettre en place la logistique, l'immense logistique, le transport de ces millions de doses ?
Qu'il faut parfois stocker à moins 70 degrés. Alors il y a 150 000 camions frigorifiques en France, mais ces températures reste inhabituel.
Bonjour Théo Manval.
Bonjour.
Le secteur nous assure qu'il est prêt.
Ah oui, on a déjà le matériel pour ça, explique Gérald Cavalier, le patron de Sémafroid, qui certifie les frigos que vous retrouvez dans les camions.
Dans ces véhicules, on peut mettre une température de moins 20 degrés et transporter des vaccins de la Covid au-dessous de moins 70 degrés.
On est ici dans les laboratoires qui testent ces immenses réfrigérateurs en région parisienne. La filière du froid sait faire ces transports dans des températures extrêmes. La preuve, elle le fait déjà tous les jours.
Les crèmes glacées, par exemple, c'est un produit que vous pouvez consommer partout en France. Ça se transporte à la même température que les vaccins au-dessous de moins 20 degrés. Pour ce qui est du moins 70, c'est le ton.
Mais ce qui va changer entre poissons et vaccins, c'est l'ampleur du trafic qu'on ne connaît pas encore, faute d'avoir le nombre précis de doses à acheminer. Avec un camion frigo pour 450 habitants, en tout cas, la France est 26 fois mieux dotée que la Chine en comparaison. Il n'y aura donc pas de rupture, promet Jean-Eudes Tesson, le président de la chaîne logistique du froid, qui demande en revanche au gouvernement de préciser très vite les lieux de stockage et de vaccination.
C'est pas la même chose de livrer un médecin généraliste dans un petit village de campagne, on ne va pas utiliser une semi-remorque qu'on va utiliser pour livrer un hôpital d'une très grande ville. Il faut qu'on nous donne des informations plus précises dans les jours qui viennent.
Ce qui se dessine pour la première phase, c'est un transport jusque dans les hôpitaux et redistribution ensuite vers les EHPAD.
Reportage signé Théo Manval pour Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1 dans quelques toutes petites secondes. L'audition de Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale, le débat sur les violences policières.
Et ces questions, combien de temps dure la formation des policiers et sont-ils suffisamment formés ?
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Un ministre de l'Intérieur longuement questionné hier soir par les députés, 2 heures d'audition. On retiendra notamment les 7 péchés capitaux de la police. L'expression est de Gérald Darmanin. Il y a l'encadrement, les moyens, les effectifs entre autres, et puis cette erreur commise quand il a fallu recruter à tour de bras ces dernières années.
D'abord, il y a une erreur fondamentale que nous avons commise au ministère de l'Intérieur. C'est le peu de formation que nous offrons à nos policiers. Raccourcir la formation initiale, c'est-à-dire la formation quand on embauche un policier, n'était pas une bonne mesure.
Bonjour Guillaume Bier.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service police-justice d'Europe 1. Aujourd'hui, combien de temps dure la formation des policiers ?
Eh bien, ça vient de changer justement. Depuis juin dernier, pour les gardiens de la paix, c'est 2 ans de formation initiale. Une première période de 8 mois, essentiellement en école de police. Puis, ils sont affectés sur le terrain et là, leur formation se poursuit pendant 16 mois. Le ministre de l'Intérieur veut encore la renforcer. Il a surtout critiqué la formation raccourcie qui existait auparavant. En fait, après les attentats, pour avoir plus de policiers plus vite, le ministère avait réduit et condensé les formations en 6 à 10 mois au lieu d'un an. C'était une erreur, a dit hier Gérald Darmanin. Et puis, il y a la formation continue, c'est environ 12 heures par an, mais seuls 20% des policiers les effectuent, d'après le ministre.
Alors, Gérald Darmanin a aussi pointé un problème d'encadrement. Il n'y a donc pas assez de chefs.
Alors non, et puis c'est surtout un problème de répartition des policiers expérimentés. En province, vous en avez beaucoup, alors qu'à Paris et sa banlieue, l'encadrement est très insuffisant. Depuis 10 ans, le nombre d'officiers a chuté de 40% à la préfecture de police. Et ce sont des jeunes sortis d'école qui viennent compenser ces départs, mais il manque cruellement d'encadrement. L'exemple marquant, c'est l'affaire Chouvia. Vous savez, ce livreur mort asphyxié lors d'un contrôle au début de l'année près de la Tour Eiffel. Sur les 3 policiers mis en examen, 2 étaient stagiaires, 23 et 28 ans, et leur chef de bord ce jour-là n'était qu'un simple gardien de la paix, même pas brigadier. Avec 5 ans d'ancienneté seulement, c'était pourtant quasi le plus capé de sa brigade.
Éclairage précis, signé Guillaume Bier.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À la crise sanitaire et économique s'est ajouté un grand désordre sécuritaire. Alors comment apaiser ? Peut-on encore apaiser ? Quel est le climat social ? Notre invité est aux avant-postes, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. À tout de suite.
Il est 8h14.